Le 11 février 1997, dans le Pas-de-Calais, le carnaval du Portel bat son plein. Dans la nuit, quatre jeunes filles disparaissent mystérieusement.
C'est impossible, compte tenu de la personnalité de ces quatre jeunes filles, qu'elles aient fugué ou qu'elles aient changé d'avis sans prévenir leur mère.
S'il ne s'agit pas d'une fugue, que s'est-il passé? Les soupçons se portent très vite sur deux frères à la réputation sulfureuse.
On a laissé deux grenades dégoupillées dans la nature. Et effectivement, ils ont fait des dégâts.
Quelques jours plus tard, les corps mutilés des quatre disparus sont retrouvés.
Moi, je me souviens qu'un des enquêteurs m'a dit, quand on a découvert les corps, on a vraiment eu le sentiment que les malheureuses, elles avaient été massacrées.
Je suis horrifié et bouleversé par cet acte de sauvagerie.
Quatre adolescentes violées et assassinées. Tout le pays est sous le choc et cherche à comprendre comment une telle barbarie est possible.
On ne disparaît pas à quatre, on ne se fait pas enlever à quatre, on ne se fait pas tuer à quatre.
Il ne fallait pas qu'il y ait une affaire Dutroux-Piss dans la région du Boulonnais.
Que s'est-il passé dans la nuit du 11 au 12 février 1997 lors du carnaval du Portel? Voici le récit de l'affaire des frères Jourdain, surnommés les frères siamois, de l'horreur. Le 22 février 1997, à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Chaque année, la journée est consacrée à la fête et aux jeux. Mais cet après-midi, adultes et enfants sont en tête d'une marche silencieuse. Des milliers de personnes sont venues défiler pour s'insurger contre la barbarie des meurtres de quatre jeunes filles de la région.
C'est horrible, horrible de voir ça. J'en ai quatre envoyées en bas âge en plus. Qu'est-ce que l'avenir a leur réserve? C'est inadmissible.
Il faut faire justice.
Pour comprendre la colère de cette foule, il faut revenir quand tout a commencé. 10 jours plus tôt, lors du carnaval du Portel. Nous sommes le 11 février 1997, lors du carnaval du Portel dans l'agglomération de Boulogne-sur-Mer. Depuis 3 jours, des milliers de personnes participent à cette fête annuelle.
Le carnaval du Portel, c'est un des petits frères du carnaval de Dunkerque. C'est un rassemblement bon enfant. Il y a une espèce de transmission qui se fait de génération en génération, et je crois qu'on peut même dire que les parents souhaitent que leurs enfants aillent au carnaval.
C'est le dernier jour du carnaval, mais aussi le plus important, avec le traditionnel brûlé du bâti.
On brûle le géant sur la plage, le géant du carnaval. Et c'est ce qui sonne la fin du carnaval.
Traditionnellement, la fête se poursuit toute la nuit sur la plage pour se terminer à l'aube. Tôt dans la matinée, Marie-Josée Merlin attend ses deux filles, Peggy, 20 ans, et Amélie, 17 ans, sur la place du village.
Marie-Josée avait passé la journée de la veille avec Amélie et Peggy à préparer le carnaval. Elle s'était déguisée, elle s'était préparée toute la journée, etc. Elle avait dit « Je vous laisse, entre guillemets, carte libre, amusez-vous, faites ce que vous voulez, profitez-en, faites la fête, mais on se donne rendez-vous demain matin à 9h, on prendra le petit déjeuner ensemble. »
Mais ce matin-là, Peggy et Amélie, les deux filles de Marie-Josée Merlin, ne sont pas au rendez-vous.
Elle attend plusieurs minutes, plusieurs heures, et puis finalement, elle se rend compte qu'il y a un problème.
Elle ne comprend pas où sont passées ses filles. Et à partir de là, donc, elle passe un certain nombre de coups de fil aux amis de ses filles, aux proches. Et le temps passe, l'angoisse monte, même si les gens la rassurent ou tentent de la rassurer en lui disant « Bon, écoute, ne t'inquiète pas, elles ne doivent pas être loin, elles ont peut-être resté dormir chez des copains. »
La matinée passe et toujours aucune nouvelle de Peggy et Amélie. Marie-Josée Merlin appelle Laure Lamotte, la mère adoptive des deux amies de ses filles, Audrey, 17 ans, et Isabelle, 20 ans. Elles ont passé la soirée ensemble.
Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle a Laure Lamotte au téléphone, Laure Lamotte est dans la même situation qu'elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de nouvelles, elle non plus, de ses deux filles.
La nuit tombe sur la région. Sans nouvelles de leurs filles, les deux mères de famille se présentent au commissariat de Boulogne-sur-Mer pour signaler leur disparition.
Au commissariat, on ne les prend pas très au sérieux eu égard aux âges de ces jeunes filles. Elles ont entre 17 et 20 ans. Et donc, par conséquent, les policiers de Boulogne-sur-Mer tentent de rassurer ces deux mères en leur disant que leurs enfants ont sans doute fugué, ont sans doute rencontré peut-être un petit copain et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Le fait qu'elles étaient quatre a amené les services de police à les rassurer en disant voilà, on ne disparaît pas à quatre, on ne se fait pas enlever à quatre, on ne se fait pas tuer à quatre.
Parce qu'il y a deux mineurs, les policiers ouvrent une déclaration de fugue. L'information est communiquée aux différents services de la région. Mais pour les deux mères de famille, ça ne suffit pas. Elles insistent.
On ne va pas à l'encontre d'un instinct maternel. Je pense que l'intuition d'une mère à la première minute est la bonne. Elles savent qu'il est arrivé quelque chose à leur fille. C'est impossible, compte tenu de la personnalité de ces quatre jeunes filles, qu'elles aient fugué ou qu'elles aient changé d'avis sans prévenir leur mère.
Peggy et Amélie Merlin sont originaires de la région. Ces deux sœurs, âgées de 20 et 17 ans, sont décrites comme joyeuses et appréciées de tous.
C'est des filles bien, qui sont très proches de leur mère, surtout qu'elles ont perdu leur père quelques années auparavant. Et donc, cette disparition, ce drame familial, a rapproché la mère de ces deux filles.
Peggy et Amélie passent beaucoup de leur temps à aider leur mère malade, surtout depuis qu'elle a été victime d'une crise cardiaque un an plus tôt. À la rentrée scolaire, elles se sont liées d'amitié avec Audrey et Isabelle Ruffin. Originaires de Valenciennes, ces deux sœurs sont arrivées dans la région il y a 5 mois. Elles aussi ont connu un drame familial.
Leur mère biologique est décédée des suites d'un accident et le père, étant chauffeur routier, ne pouvait pas s'en occuper. Donc il a confié ses enfants à Laure Lamothe qui s'en est merveilleusement bien occupée. Et les choses ont bien fonctionné au sein de cette famille recomposée, reconstituée.
Cette année, Peggy et Amélie ont voulu initier leurs deux nouvelles amies, Isabelle et Audrey, au carnaval du Portel.
Si on veut partager quelque chose de précieux à cet endroit-là, on partage le carnaval.
Les mères de famille en sont convaincues. Leurs filles n'ont pas pu fuguer. Elles vont tenter de convaincre les enquêteurs de Boulogne-sur-Mer que la situation est beaucoup plus grave.
On ne fugue pas sans argent, on ne fugue pas sans papier et on ne fugue pas sans raison.
C'est pas des fugues, ils n'ont pas le tempérament à fuguer et donc c'est pas une fugue. Moi je suis formée là-dessus, c'est pas une fugue. Nos enfants ont bel et bien été enlevés.
On était en pleine affaire du trou, hein, que peut-être elles étaient séquestrées et qu'on les retrouverait vivantes, mais ce qui était une évidence, c'est qu'elles n'étaient pas en fugue.
Marc Dutroux, ce pédophile belge qui a violé et tué de jeunes adolescentes, est dans tous les esprits. Les mères de famille craignent que leur fille ait croisé un criminel à l'image de ce terrible personnage. Deux jours plus tard, le 14 février 1997, toujours aucune nouvelle des quatre disparus. Familles et amis s'impatientent. Ils trouvent que les services de police ne prennent pas cette affaire au sérieux en privilégiant la fugue plutôt qu'une disparition. Les proches des jeunes filles décident de mener leur propre recherche.
Une bande d'amis des quatre jeunes filles va faire ce qu'auraient dû faire les policiers. Elles vont sillonner les plages, les blocos, les bistrots, avec les photos en les montrant à tous les témoins pour savoir si par hasard ils ne les auraient pas vues.
Ils ratissent les environs, mais aucune trace des quatre jeunes filles. Ont-elles eu un accident? Ont-elles fait une mauvaise rencontre? Se sont-elles réellement rendues au carnaval? Ils font le tour des bars où elles auraient pu se rendre ce soir-là et obtiennent un premier renseignement. Sur un mur de photos souvenirs du carnaval, ils découvrent un premier indice.
Ils vont trouver une photo d'Audrey Ruffin en tenue de mousquetaire, qui est en fait la preuve qu'elle a été au carnaval.
Elle était forcément avec sa sœur et ses deux autres copines à l'occasion de cette nuit.
les amis des quatre disparus interrogent d'autres fêtards présents lors de cette soirée.
On arrive à savoir que les quatre jeunes filles ont quitté le Portel à 22h45 avec pour projet de se rendre au bal de clôture du carnaval qui se trouve sur une plage à 3 km du Portel.
Mais sur la plage, lors du bal de clôture, personne ne les a vues.
Ce qui revient à dire qu'elles ont probablement disparu ou qu'elles ont eu un problème après 22h45 et qu'elles ne sont jamais arrivées sur la plage où se déroulait le bal.
Cela fait maintenant 3 jours que les 4 jeunes filles ont disparu. Un homme qui a entendu parler de l'affaire pense détenir des informations importantes pour l'enquête. Il appelle Laure Lamotte, la mère adoptive d'Audrey et Isabelle.
Il indique qu'il était présent ce soir-là au carnaval et qu'il a repéré une camionnette blanche, un peu bariolée, notamment avec des rayures vertes sur le côté conducteur. La camionnette était immatriculée dans le Nord. Il n'a pas plus de détails sur la plaque d'immatriculation.
Avec des hommes au comportement étrange qui ont traîné ce soir-là à Le Portel. Et comportement d'autant plus étrange qu'ils ne sont pas déguisés. Et les gens non déguisés dans un carnaval se font plus vite repérer.
Ces individus seraient-ils à l'origine de la disparition des 4 jeunes filles? Les familles en sont convaincues. Et imaginent le pire. Elle crée un avis de recherche et alerte les médias.
Depuis mardi, on est sans nouvelles de 4 jeunes filles. Fugue ou enlèvement, l'inquiétude est très vive. Famille et amis se mobilisent pour retrouver les adolescentes.
4 jours après la disparition des jeunes filles, la presse locale diffuse les avis de recherche des familles ainsi que le signalement du fourgon à rayures vertes. Cette affaire grandissante va interpeller la justice. Le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer dessaisit la police locale au profit d'enquêteurs chevronnés, ceux du SRPJ de Lille, la police judiciaire. L'enquête démarre enfin.
On sentait bien quand même à ce moment-là de l'affaire que la justice commençait à vraiment s'inquiéter pour le sort de ces 4 adolescentes.
Les policiers du SRPJ reprennent l'enquête des proches à zéro. Ils commencent par faire des perquisitions dans les chambres des disparus et font venir une brigade canine. Le capitaine Bourin a participé à l'enquête.
Le commissaire de police va vite reprendre contact avec les familles pour savoir exactement quand les jeunes filles ont quitté le domicile, comment elles étaient habillées, où elles sont allées, est-ce qu'elles avaient des moyens de communiquer avec la famille.
Ce qui est notable dans cette histoire, c'est qu'en fait, les enquêteurs de la police judiciaire vont d'une certaine façon bénéficier de l'enquête un peu parallèle qui a été menée par l'entourage des 4 jeunes filles qui ont disparu.
Et c'est vrai que les renseignements qu'on a obtenus par les amis et les proches des familles ont été utiles déjà pour éliminer certaines pistes. Puisque ce qu'il faut faire au départ, c'est ça, c'est recevoir le maximum de renseignements pour pouvoir définir après les axes d'enquête.
Les enquêteurs fouillent la région de fond en comble. Les policiers lancent immédiatement un avis de recherche concernant ce qui, à leurs yeux, est la piste la plus concrète, celle de la camionnette à rayures vertes immatriculée dans le Nord. Un numéro vert est mis en place et rapidement des témoignages vont apporter de nouveaux éléments à l'enquête. Nous sommes le 17 février 1997, soit 6 jours après la disparition de Peggy, Amélie, Audrey et Isabelle. Les enquêteurs du SRPJ sont maintenant persuadés qu'elles ont fait une mauvaise rencontre. La diffusion de l'avis de recherche va porter ses fruits. Ce sont des collègues d'une gendarmerie locale qui leur fournissent un nouveau renseignement.
Ils ont remarqué une camionnette blanche avec des rayures vertes les 7 et 8 février, c'est-à-dire quelques jours avant le début du carnaval.
Les gendarmes décrivent aux enquêteurs la présence au volant d'un homme inquiétant, ce qui avait attiré leur attention. Ils ont noté la plaque d'immatriculation du fourgon. Les policiers entrent le numéro dans le fichier des cartes grises pour rechercher l'identité du propriétaire.
Ils identifient donc le nouveau propriétaire de cette camionnette comme s'appelant Jean-Michel Jourdain. En vérifiant plus avant, ils s'aperçoivent que le Jean-Michel Jourdain en question est largement et tristement connu de leur service.
Les enquêteurs apprennent que cet homme de 35 ans vit avec son frère sur une commune du secteur.
On peut s'apercevoir que les frères Jourdain sont connus des services de police et de la pénitentiaire, puisqu'ils ont eu déjà des affaires criminelles importantes, qui ont été condamnés à plusieurs reprises à des peines lourdes pour des viols, pour des attouchements et pour des tentatives de meurtre.
Ces deux frères ont-ils croisé le chemin de Peggy, Amélie, Audrey et Isabelle ce soir du carnaval? Au vu du profil inquiétant des suspects, les policiers du SRPJ se rendent immédiatement au domicile familial pour les interpeller. Quand ils arrivent chez les Jourdain, ils envisagent le pire.
Ils vont découvrir une espèce de cabane immonde qui trône au milieu d'une espèce de terrain vague où il y a de la ferraille partout. Tous ces gens vivent les uns sur les autres, dans une crasse indescriptible. Enfin, c'est vraiment une espèce de verrue qu'il y a comme ça au milieu du village.
Dans la cour des Jourdain, les enquêteurs découvrent une camionnette dont la plaque d'immatriculation correspond à celle de leur recherche. Ils procèdent à une perquisition du domicile de la famille ainsi que de la fourgonnette.
Ils vont s'apercevoir qu'il n'y a plus sur les côtés à l'avant gauche de rayures vertes et l'avant gauche a probablement été repeint récemment.
Les experts de la police scientifique arrivent sur les lieux. À l'intérieur du véhicule, ils découvrent différents éléments matériels.
Alors, ils vont passer de fond en comble cette camionnette. D'abord, ils vont découvrir qu'elle n'a plus de rideaux, qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, donc elle aurait été vidée.
Ils voient quand même qu'elle a été nettoyée à grand eau, comme si on avait voulu faire disparaître des indices.
Dans le fourgon, les experts saisissent deux planches de contreplaqué vernis sur lesquelles se trouvent des traces rougeâtres.
Ils vont découvrir également une boucle d'oreille dont le fermoir est déformé. Ils vont retrouver des cheveux et probablement peut-être des poils sous les sièges passagers. Et enfin, sur une banquette en tissu avec une armature en bois, ils vont trouver des taches suspectes.
Que s'est-il passé dans cette camionnette? Toutes ces pièces sont mises sous scellé pour être expertisées en urgence. Devant les caméras de télévision, Jeanne, la mère des frères Jourdain, fournit un alibi à l'un de ses fils.
Je peux te jurer qu'il ne bouge jamais d'ici. Ah non.
Il n'a pas été au carnaval l'autre jour, la semaine dernière.
Il vous le dit qu'il n'a pas été, il a toujours été ici. Il n'a jamais bougé d'ici.
Mais les policiers ont d'énormes doutes sur le témoignage de cette femme. Ils sont convaincus de détenir les bons suspects, d'autant plus que rapidement, de nouveaux témoignages établissent que les deux frères étaient bien au Portel le soir du carnaval. Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain sont placés en garde à vue pour être entendus.
Ils sont vraiment les suspects numéro un dans cette affaire. Les policiers sont persuadés qu'ils sont de près ou de loin mêlés à la disparition de ces quatre jeunes filles.
Pour trouver des preuves irréfutables, la police procède à un ponçage du fourgon saisi chez les Jourdain. Cette opération fait apparaître des rayures vertes sur fond blanc. Pour les enquêteurs, il s'agit bien du fourgon aperçu par plusieurs témoins le soir de la disparition des quatre jeunes filles. En garde à vue, les enquêteurs ont 48 heures pour faire parler les frères Jourdain. Ils vont donc se pencher sur la vie de ces deux hommes au profil inquiétant. Les frères Jourdain sont des ferrailleurs. Ils ont grandi à Danne, une commune située à 20 km au sud du Portel, dans un contexte familial particulier.
Ils ont vécu une enfance livrée à eux-mêmes, pratiquement sans scolarité, ou en tout cas une scolarité tellement chaotique que ce sont des garçons qui savent à peine lire et pas écrire. C'est une vie de chômage, d'oisiveté, de bricolage, de déviance sexuelle aussi. La mère des Jourdain se livrait à des pratiques incestueuses sur ses garçons, sur ses enfants. Le père était un alcoolique notoire, violent, qui faisait lui aussi régner une espèce de terreur dans cette espèce de cabane qui abritait la famille. C'est une espèce de famille à part, quoi, des gens qui étaient complètement en dehors de la société civile, complètement en dehors de, j'irais presque dire, de la civilisation.
Lorsque les frères Jourdain sont désignés comme les suspects numéro un dans la disparition de Peggy, Amélie, Audrey et Isabelle, les habitants de la région ne sont pas surpris.
Le regard des habitants de Dan sur les Jourdain est effrayant. On a un peu l'impression, quand ils en parlent des Jourdain, qu'ils décrivent les Dalton.
Il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait eu une espèce de pétition qui avait été faite par les habitants de Dan en disant qu'ils ne pouvaient plus les supporter. Il y avait le voisin qui habitait une petite maison coquette à côté d'une espèce de terrain vague dans lequel vivaient les Jourdain. Ils retrouvaient des pneus, des jets d'huile, des boulons, parce que ça les amusait, les Jourdain, de perturber les week-ends et les dimanches quand ce monsieur était là en train de faire un barbecue. Il balançait des pneus et des seaux d'huile. Bon, voilà. C'est ça, les Jourdain.
Quand vous passiez, de toute façon, vous baissiez la tête. Hein. Ils vous regardaient d'une façon vraiment des maniaques, quoi, en fait. Des violents. Ils s'attaquaient à tout, quoi, si vous voulez. Ils font même peur, quoi. Non, il ne faut vraiment pas les faire chier.
Jean-Michel Jourdain a 35 ans. Il vit de petits expédients et de la vente de ferraille. Il se marie deux fois et a trois enfants, dont une petite fille, Jennifer, qui meurt en bas âge des suites d'une méningite. Sa femme le décrit comme un bon mari et un père attentionné. Un portrait qui n'est pas partagé par tout le monde.
Jean-Michel Jourdain, il est décrit par tout le monde comme une brute épaisse. C'est une boule de muscles, une boule de nerfs, et que la violence est contenue, enfin est toujours présente dans son attitude, dans son regard.
C'est un type qu'on ne souhaite pas avoir comme voisin.
Les enquêteurs découvrent que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations. La première date de 1980. Pour des faits qualifiés d'attentat à la pudeur avec violence.
Alors qu'il a à peine 15 ans, on est dans les années 80, il agresse une jeune fille de 12 ans, des faits d'une extrême gravité qui vont l'amener, alors qu'il est mineur, à être condamné à une peine de 10 années de réclusion criminelle. Ce qui est quand même pas fréquent.
Il sort de prison au bout de 3 ans, avec une mise à l'épreuve de 5 ans. Jean-Michel Jourdain enchaîne les relations sentimentales, mais en 1986, il bascule dans le meurtre. Alors qu'il est marié et va devenir père, il tue une ancienne petite amie, Anita Dassonville, âgée de 18 ans.
Et cette espèce de personnage, pour ne pas dire plus, a gardé une espèce de rancune sentimentale à l'égard d'Anita Dassonville. Et il va y retourner un jour pour lui ôter la vie.
Le 9 mars 1989, il est condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Il est libéré après avoir purgé 9 ans de prison. Jean-Louis Jourdain, lui, a 37 ans. C'est l'aîné des deux frères. Un retard mental a été diagnostiqué dès le plus jeune âge. Il a eu quelques aventures féminines de courte durée.
Il devait avoir beaucoup de difficultés à séduire les femmes. Ou alors, il fallait qu'il rencontre des femmes qui elle-même était assez, même très limitée au plan affectif et au plan culturel en général.
Mais ce sont ses antécédents judiciaires qui interpellent les enquêteurs. Son casier mentionne 4 condamnations, dont 3 relatives à des crimes et délits sexuels. La plus importante est celle du 22 septembre 1989, date à laquelle il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol. Il sortira de prison 5 ans plus tard. Pour les experts psychiatres, c'est la représentation de la femme pour ses deux frères qui pose question.
Pour les frères Jourdain, la femme représente un objet. Un objet de plaisir sexuel. Elle n'est pas perçue par eux comme un être respectable. Elle est simplement au service de leur désir sexuel immédiat.
Au vu du profil inquiétant des frères Jourdain, les enquêteurs pensent au pire. Mais il est possible que les adolescentes soient séquestrées quelque part. Alors il faut agir vite. En garde à vue, les frères Jourdain ne sont pas bavards.
Les enquêteurs vont se heurter en fait au mutisme de l'un et de l'autre. Ce sont des gens qui ne communiquent pas, qui sont très refermés sur eux-mêmes, qui ont la parole difficile de toute façon. Donc ils connaissent la procédure. Ils savent que la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas parler, c'est de ne rien dire.
Face aux questions des enquêteurs, les frères Jourdain affirment qu'ils n'étaient pas au carnaval du Portel dans la nuit du 11 au 12 février. Ils disent être restés chez eux à regarder la télévision. Ils vont même donner le programme télé du soir.
Ils essayent un peu de donner le change, ils essayent un petit peu d'argumenter en expliquant leur position, mais enfin évidemment ça va pas tenir longtemps.
Les policiers mettent tout en œuvre pour les faire parler. Mais les frères Jourdain nient les faits qui leur sont reprochés. Au même moment, un couple se présente au commissariat de Boulogne-sur-Mer pour livrer un témoignage qui va permettre de confondre les deux suspects. Nous sommes le 20 février 1997, soit 9 jours après la disparition des 4 jeunes filles. Alors que les frères Jourdain sont en garde à vue, un couple se présente au commissariat de Boulogne-sur-Mer pour leur raconter ce qu'ils ont vu la nuit du carnaval. Ce soir-là, ils ont croisé la fourgonnette à rayures vertes à plusieurs reprises avec 2 occupants dont le comportement avait attiré leur attention.
Ils ont vraiment une attitude très suspecte. Ils regardent autour d'eux, ils s'arrêtent, ils regardent passer les jeunes qui, pour certains, vont à pied jusqu'à Ikien, d'autres montent dans les voitures en autostop, enfin bref.
Quelque chose leur dit que ce comportement-là, c'est pas le comportement qu'on doit avoir ce soir-là au carnaval.
Le couple de témoins explique aux enquêteurs qu'ils ont vu cette fourgonnette prendre en autostop un groupe de fêtards.
Et parmi ce groupe de jeunes, il y a une jeune fille qui est habillée en mousquetaire rouge. Et on sait qu'Audrey Ruffin s'était déguisée en mousquetaire rouge.
Les frères Jourdain regardaient-ils réellement la télévision comme ils l'affirment? Où sont-ils les 2 hommes aperçus par le couple? Pour en avoir le cœur net, les policiers organisent une confrontation. Les témoins reconnaissent formellement les Jourdain comme étant les conducteurs de la camionnette. Suite à ce témoignage, les enquêteurs savent qu'au moins une des 4 disparues est montée dans leur fourgon.
Donc là, on a plusieurs éléments qui nous permettent de penser que les 2 frères Jourdain ne nous disent pas la vérité. Et que, déjà, dès le départ, ils nous mentent quant à leur emploi du temps de la soirée du carnaval.
Les policiers n'ont plus qu'à faire parler les frères Jourdain pour savoir ce qu'ils ont fait des filles.
Jean-Michel est quelqu'un qui, lui, ne parle pas du tout. Très dur, très fermé. On a l'impression de s'adresser à un mur quand on voit. Jean-Louis, c'est différent. On sent tout de suite quelqu'un qui est plus fragile. Et les inspecteurs vont tout de suite comprendre que le maillon faible, entre parenthèses, c'est Jean-Louis.
C'est le capitaine Borin qui mène la garde à vue de Jean-Louis Jourdain. Il décide d'adopter une stratégie pour le faire parler.
Je décide pour la seconde audition d'avoir une approche différente et d'entretenir avec Jean-Louis Jourdain un rapport plus intimiste, si l'on peut dire, à savoir, je lui parle avec le langage qu'il comprend, c'est-à-dire des mots simples et du patois de la région, du patois de Boulogne-sur-Mer, que je connais puisque je suis natif de Boulogne-sur-Mer.
Cette stratégie se révèle payante. Le policier réussit à déstabiliser l'aîné des frères Jourdain sur son emploi du temps le soir du carnaval. Jean-Louis Jourdain reconnaît finalement être allé avec son frère au Portel avec leur fourgonnette. Le capitaine Borin présente à Jean-Louis Jourdain les photos des 4 jeunes filles. Les aurait-il croisées au carnaval du Portel ce soir-là ?
Je vais dans l'intime en lui disant, voilà, nous on pense que les quatre filles ont été prises par quelqu'un. Peut-être que c'est pas toi, on sait pas. Mais toi, tu peux nous le dire. Si tu sais quelque chose, il faut le dire. Je martèle ça en regardant, avec mon doigt, en montrant les photos des filles, en disant, écoute, fais quelque chose si elles sont quelque part.
Le policier profite de cet instant de faiblesse pour obtenir plus de renseignements.
Il a eu une douleur pour lui, c'était la disparition d'une petite sœur, auquel il était très, très proche, avec laquelle il était très proche. Je lui parle de ça, je lui dis, écoute, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, parce que toi, ta petite sœur, elle n'a pas eu de chance, elle est morte, mais elle, si elles sont encore en vie, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour les retrouver. Il va y avoir un petit silence, il va se pencher en arrière, il va me dire, on ne peut plus les retrouver, elles sont dans le sable à Sainte-Cécile.
Peggy, Amélie, Audrey et Isabelle seraient mortes et enterrées dans les dunes non loin de là. Mais ces aveux ne suffisent pas au capitaine Bourin. Il demande plus de détails à Jean-Louis. Des détails que seul le meurtrier pourrait connaître.
Il va me faire un dessin sommaire indiquant un parking, un chemin, un blockhaus et un camping.
Immédiatement, les services de police se rendent sur la plage de Sainte-Cécile, accompagnés de Jean-Louis Jourdain. Ils arrivent près d'un camping, en haut d'une dune.
Je le tiens avec les menottes, et c'est lui qui m'entraîne plus que moi je l'entraîne, puisque c'est lui qui connaît le coin. Il s'arrête à un endroit et me dit c'est là.
Les enquêteurs du SRPJ font venir des pompiers locaux pour creuser à l'endroit indiqué par Jean-Louis Jourdain.
Et puis on creuse. Et plus il creuse, plus il me dit c'est pas possible, puisque là, c'est quand même profond. Puis malheureusement, on aperçoit donc de l'étoffe qui sort du sable.
Sous les yeux de Jean-Louis Jourdain, qui regarde la mer, les pompiers exhument le corps d'une jeune fille habillée en mousquetaire rouge, enterrée à 70 cm de profondeur.
Je me dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi, je ne fais pas ce métier pour voir que ça. Et ce qu'il y a d'atroce, ce n'est pas simplement de découvrir un corps, j'en avais découvert auparavant, mais c'est de découvrir un corps habillé pour aller s'amuser, un corps de jeune fille. Et puis un deuxième, habillé aussi pour aller à la fête. Un troisième et un quatrième. Et ça, vous êtes là, oui, il fait froid, vous êtes sur le sable, et vous avez ça, vous avez quatre jeunes filles qui sont mortes, qui sont là, et puis un type qui regarde et qui se dit que... Il faudrait peut-être qu'on rentre maintenant qu'il a fait son job.
Peggy et Amélie Merlin, Audrey et Isabelle Ruffin, sont enterrées tête bêche sur une dune. Les premières constatations sont épouvantables.
Moi, je me souviens qu'un des enquêteurs m'a dit quand on a découvert les corps, on a vraiment eu le sentiment que les malheureuses, elles avaient été massacrées. Mais voilà, c'est le terme qu'il a utilisé. Elles ont été massacrées par ces deux-là.
Les corps des quatre jeunes filles sont envoyés à l'Institut médico-légal de Lille pour être autopsiés. Le résultat des premières analyses est d'une violence extrême. Pour les mères de famille, la douleur est immense.
Je suis là pour que tout se passe dans la dignité et que les mamans soient renseignées sur ce qui s'est passé. Alors maintenant, ce que je sais, c'est qu'ils vont être mis en examen pour viol et assassinat. Il y a eu viol et assassinat.
Non.
Voilà. Et les quatre. D'accord ? Et ça s'est passé dans les dunes, là-bas où on les a retrouvés.
La région est en état de choc quand elle découvre le passé judiciaire des frères Jourdain. Le 22 février 1997, des marches blanches sont organisées pour soutenir les familles et pour montrer leur colère envers ces crimes barbares. Le président de la République en personne témoigne de son indignation.
Je suis horrifié et bouleversé par cet acte de sauvagerie. Justice sera faite.
Les gens hurlent leur colère, on entend des appels à la peine de mort, à la vengeance populaire, enfin, il faut imaginer l'ambiance. Commence à surgir le débat à ce moment-là. Comment ça a été possible? Comment ces deux monstres ont-ils pu être laissés en liberté sans aucun contrôle, sans aucun suivi judiciaire? Il faut se souvenir qu'on est en 1997, que la législation de l'époque, elle n'était pas ce qu'elle est maintenant. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, on a laissé deux grenades dégoupillées dans la nature. Et effectivement, ils ont fait des dégâts.
Le reste de la famille Jourdain est mis sous protection policière pour éviter toute représaille de la foule en colère. Quelques jours plus tard, un incendie criminel détruit le baraquement des Jourdains à Danne. Pourtant, même si Jean-Louis Jourdain a permis aux enquêteurs de découvrir les corps des quatre jeunes filles, lui et son frère n'ont pas avoué le crime. Que s'est-il passé lors de cette nuit du 11 au 12 février 1997 ? Quel est le rôle de chacun ? Les enquêteurs doivent obtenir des aveux. Nous sommes le 23 février 1997, soit deux jours après la découverte des corps d'Amélie, Audrey, Isabelle et Peggy. Les enquêteurs savent que Jean-Louis Jourdain est lié de près à cette affaire. Il leur reste à déterminer le scénario du crime et le rôle de chacun des deux frères dans le meurtre des quatre jeunes filles.
Maintenant qu'on a découvert les corps, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous étiez au portel avec votre frère dans le fourgon et le moment où ces filles se sont retrouvées dans le sable.
Mais les deux frères ont des versions contradictoires et s'accusent mutuellement. De son côté, Jean-Louis Jourdain raconte aux policiers que son frère et lui ont pris les quatre jeunes filles en autostop cette nuit-là.
C'est Jean-Michel qui conduit le véhicule et c'est Jean-Louis Jourdain qui est à l'arrière avec les filles.
Le trajet devait être très court, 3 km. Et les jeunes filles trouvent assez rapidement que le trajet emprunté par le conducteur ne doit pas être le bon. Elles commencent à s'affoler parce que le temps passe.
Et l'une des jeunes filles dit « Bah non, on ne va pas rester avec vous, là c'est trop loin, on veut descendre, on va descendre. »
Jean-Louis Jourdain raconte ensuite que le mousquetaire rouge aurait tenté d'ouvrir la porte arrière du fourgon pour sortir. Mais son frère aurait volontairement bloqué la serrure. Il révèle ensuite qu'ils seraient allés ensemble dans un blocos sur la plage de Sainte-Cécile, accompagnés des quatre filles. Jean-Louis Jourdain dit être resté avec elle un moment, à l'intérieur, jusqu'à ce que son frère Jean-Michel revienne.
Et là, il explique que, alors qu'il se trouvait avec les quatre jeunes filles à l'intérieur du blocos, Jean-Michel est venu régulièrement chercher l'une des filles, l'une après l'autre.
Et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Et lui, Jean-Louis, reste dans le blocos en attendant comme ça. Et puis à un moment, son frère va dire bah, « Viens avec moi ». Et il constate que les filles sont mortes et sont sur le sable. Et son frère lui dit « Il faut creuser maintenant pour les enterrer ». Et tu te tais, il ne s'est rien passé.
Mais Jean-Michel donne une toute autre version aux enquêteurs. Il confirme avoir pris en autostop les quatre jeunes filles et s'être rendu à la plage de Sainte-Cécile avec elles. Mais ce n'est pas lui qui les aurait tuées. Il dit les avoir laissées seules avec son frère dans le blocos pendant plus d'une heure. En revenant, il aurait trouvé les filles mortes et aurait aidé son frère à les enterrer.
Ce scénario, ça lui permet de dire, en fait, moi, je suis strictement pour rien dans cette affaire. Si les quatre filles sont mortes, c'est sans doute parce que mon frère les a tuées.
Qui dit la vérité ? Les deux frères s'accusent mutuellement de la mort des quatre jeunes filles. Les enquêteurs sont dans une impasse.
Et puis, vous savez, quand des faits d'une gravité comme ça sont commis, vous savez, il n'y a plus de copains, il n'y a plus de famille. Hein, c'est chacun pour soi, en général.
Les policiers sentent qu'ils n'obtiendront pas d'aveu concordant des frères Jourdain. Ils espèrent que les autopsies des victimes vont leur permettre d'établir le scénario du crime.
Les quatre jeunes filles sont mortes étranglées. Trois ont été violées. Une a été ensevelie vivante puisqu'on retrouve des traces de sable à l'intérieur de ses poumons. En revanche aussi, les quatre jeunes filles ont été rouées de coups. Elles avaient d'importantes lésions au niveau du visage, au niveau des articulations, ce qui laisse à penser qu'elles ont été violemment frappées au niveau du visage.
L'autopsie permet également de prélever 6 spermatozoïdes dans le vagin de l'une des filles. L'échantillon est immédiatement envoyé au laboratoire de police technique et scientifique de Lille. Les enquêteurs espèrent que l'ADN permettra de déterminer le rôle de chacun. Nous sommes le 27 février 1997 dans la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. Les obsèques des victimes ont des allures de deuil national. 5000 personnes et le premier ministre de l'époque, Alain Juppé, sont présents pour soutenir les familles. En octobre 1997, soit 10 mois après les meurtres, les résultats des tests ADN tombent. Les enquêteurs ont mis beaucoup d'espoir dans ces analyses pour s'approcher du véritable scénario du crime.
Malheureusement, à l'époque, les capacités de ces laboratoires ne permettaient pas d'arriver à trouver l'ADN mitochondrial d'une manière certaine. En plus, les scellés ont été partiellement détruits, non pas par la volonté des enquêteurs, mais parce que les conditions de l'époque pour la conservation de ce genre de matière n'étaient pas au top. Et on n'a malheureusement pas pu déterminer à qui appartenaient ces spermatozoïdes.
Les tests ADN n'ont pas permis aux enquêteurs d'identifier avec précision le violeur. Jean-Michel Jourdain change alors totalement de discours.
Tout à coup, Jean-Michel Jourdain va revenir sur sa version. Il n'a même plus vu les filles, il ne s'est rien passé. Voilà. Mais je vais vous dire, hein, moi, je n'avais pas besoin de leurs ADN. Hein. Sincèrement. Hein.
La juge d'instruction va tout tenter pour découvrir ce qui s'est passé la nuit du drame. Elle organise une confrontation entre les deux frères pour connaître la vérité. Les Jourdain ne se sont pas croisés depuis leur arrestation. Elle espère que l'un des deux va craquer au contact de l'autre. Mais une nouvelle surprise l'attend.
Et là, il va se passer effectivement quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Jean-Louis, lui, maintient sa version en disant « Moi, j'ai dit la vérité, en gros, pas besoin de revenir là-dessus ». Quant à Jean-Michel, lui, il va défendre son frère. Il lui dit « Écoute, je vois pas pourquoi tu t'accuses. Moi, je sais que t'as rien fait, puisque t'étais avec moi. Et donc, si t'avais fait quelque chose, je m'en souviendrais. Donc, arrête de t'accuser à tort, tu n'y es pour rien. »
Une version encore différente qui s'ajoute aux deux précédentes. Les enquêteurs comprennent qu'ils n'arriveront pas à obtenir la vérité sur le scénario du crime de la bouche des Jourdain. À ce stade de l'enquête, les enquêteurs ont la conviction qu'il fallait être deux pour contenir les filles. La juge d'instruction décide d'abattre sa dernière carte. Elle organise une reconstitution sur les lieux de la découverte des corps avec les frères Jourdain. Pour l'occasion, un important dispositif de sécurité est mis en place. Il est impossible d'approcher la scène de crime à des kilomètres à la ronde. La police redoute des actes de vengeance de la population.
Donc du coup, on va monopoliser 500 personnes. 4 compagnies de CRS, 200 gendarmes, un hélicoptère. Je crois même qu'il y avait des bateaux qui étaient au large pour éventuellement éviter une arrivée par la mer de quelques assaillants. Donc on avait quand même fait les choses bien.
Lors de la reconstitution, l'évidence saute aux yeux. La version de Jean-Louis ne colle pas. Il est impossible qu'il soit allé dans le blocos avec les filles.
D'abord, les intempéries ce jour-là. Il pleut, il y a un vent force 7. Ensuite, il fait nuit noire, c'est une nuit sans lune. On ne voit strictement rien. Et pour accéder au blocos, il faut passer des barbelés. Et l'une d'entre elles est habillée en marquise avec une robe longue. Et il n'y a aucun des vêtements des jeunes filles qui ne sont déchirés. Et là, dans ce contexte-là, bien sûr qu'il y en a une qui aurait essayé de se sauver. Bien sûr qu'ils n'auraient pas réussi à les maintenir toutes les quatre. C'est une évidence qu'elles étaient prises au piège et que le piège, c'était la fourgonnette.
Tout se serait donc passé dans la camionnette des Jourdain. Plusieurs éléments confortent cette thèse.
C'est un piège complet. À partir du moment où ils y sont, elles ne peuvent plus s'en aller. Elles ne peuvent plus accéder à l'extérieur puisque les portières sont verrouillées. Il n'y a pas de système qui permet de les ouvrir. Imaginez cela, C'est aussi imaginer l'abomination, en fait, de ce crime, parce que ça s'est passé dans un espèce de monde complètement clos, très étroit. Elles ont assisté les unes aux autres à ce qui se passait.
Les enquêteurs ont peu d'éléments pour confondre les Jourdain. Ils ont la certitude qu'ils ont tué les filles. Mais toujours aucun aveu. La seule preuve matérielle du passage des quatre filles dans le fourgon est la boucle d'oreille avec son fermoir déformé, trouvée lors de la perquisition du véhicule. Les enquêteurs sont arrivés à déterminer qu'elle appartenait à Audrey Ruffin.
Ce qui veut dire qu'elle a sans doute reçu un coup de poing ou une gifle au niveau du visage qui lui a arraché la boucle d'oreille, qui a déformé le système de fermeture de cette boucle d'oreille.
Pour la justice, les frères Jourdain avaient prémédité leurs actes depuis bien longtemps.
Les Jourdain, ce soir-là, sont partis en chasse. On se rend compte que tout a été préparé depuis longtemps. La camionnette, elle a été achetée récemment. On a retiré le système qui permet d'ouvrir de l'intérieur. Et il y avait encore un élément matériel qui établissait la préméditation. Ben, c'est la pelle qu'on va retrouver. Cette pelle, bien évidemment, elle était à l'intérieur de cette camionnette parce qu'ils savaient ce qui allait se passer.
L'avocat général est même allé jusqu'à penser qu'ils avaient acheté cette fourgonnette dans le dessein de kidnapper une jeune fille. Et là, le hasard leur en a fourni quatre.
L'instruction ne parviendra pas à déterminer le rôle de chacun des deux frères. Les enquêteurs espèrent que le procès permettra de faire la lumière sur cette terrible nuit du 11 février 1997. Le procès des frères Jourdain s'ouvre le 16 octobre 2000 aux assises de Saint-Omer. L'avocat général va une nouvelle fois essayer de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé ce soir de carnaval. Mais là encore, les frères restent muets sur le déroulement des faits.
Et alors, vous dire par exemple qui a fait quoi dans cette camionnette ? J'en suis bien incapable. Et c'est en ce sens que ce sont des frères siamois. Parce qu'ils sont liés d'une façon indéfectible par leur passage à l'acte, par la façon dont les choses ont été préparées, par l'atrocité du crime. On va retrouver à proximité immédiate de cette pauvre sépulture de sable deux canettes de bière vides. Et je me souviens avoir posé la question à l'audience. J'avais dit à Jean-Louis, mais c'est quoi ces deux canettes de bière là qu'on retrouve La bière était suffisamment fraîche ? Il me regarde, il me fait « Non, elle était tiède ». Vous voyez, ce genre de réaction, c'est terrible à chaud quand vous vivez ça sur un procès comme ça. Ça prouve quoi ? Ça prouve d'abord qu'on est face à cette personne qui est là, qui ne mesure pas les enjeux.
L'avocat général comprend très vite qu'il n'obtiendra pas d'aveu. Mais ce qui marque ce procès, c'est l'attitude des frères Jourdain.
On a affaire à deux types costauds, avec ce qui m'a impressionné, et pas seulement moi, ce qui impressionnait tout le monde, c'était leurs mains. Je sais que Laure Lamothe, elle a regardé ses mains et elle s'est dit « Mon Dieu, c'est avec ça qu'ils ont fait mal à mes filles. »
Les mères de famille veulent connaître la vérité. Laure Lamothe, la mère adoptive d'Audrey et Isabelle Ruffin, s'adresse au meurtrier de ses filles.
Madame Lamothe les regarde, ne baisse pas les yeux. Et même quand elle va venir témoigner, là, du haut de son 1m50, sa petite silhouette voûtée, elle va les regarder en disant « Comportez-vous en homme et dites-nous ce qui s'est passé. »
Et puis elle va se heurter à un mur, quoi. À un mur. Jean-Louis, il bredouille quelques explications parfaitement incohérentes et tout à fait incompréhensibles, et en tout cas totalement peu crédibles. Et Jean-Michel, lui, ça reste un mur de dénégation. Procès, ils les avaient regardés comme ça en leur disant « Écoutez, je suis désolé pour ce qui vous est arrivé, mais moi, j'y suis pour rien dans cette affaire. »
On a l'impression qu'on est, voilà, on est plus dans l'humanité, là.
On est là aussi, justement.
Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Les mères de famille n'obtiendront rien des frères Jourdain. Elles doivent faire le deuil de la vérité. Le 27 octobre 2000, après deux semaines de procès, le verdict tombe. Les frères Jourdain sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour Jean-Michel et de 20 ans pour Jean-Louis.
Et pour Jean-Louis, je vais baisser de 2 ans la peine de sûreté. C'est pas grand-chose, mais c'est symbolique. C'est parce que Jean-Louis, c'est lui qui a quand même dit certaines choses qui nous ont permis de tenir ce procès, qui ont permis de retrouver ces jeunes femmes, de leur donner cette sépulture, de les restituer à leur famille.
Ça ne me ramènera pas mes filles, mais au moins on sait qu'il y en a deux qui ne feront plus de mal à personne. Au moins de ce côté-là, on est soulagé.
On fermera toujours nos bras sur du vide, mais enfin, au moins, ils ne feront plus de mal à d'autres enfants et à d'autres familles.
À l'énoncé du verdict, les frères Jourdain ne bronchent pas. Ils demandent à leurs avocats de faire appel. Lors du deuxième procès, en mars 2002, la peine restera la même. En février 2003, le blocus de la plage de Sainte-Cécile, qui était devenu un lieu de recueillement, a été dynamité. Les années ont passé depuis la mort de Peggy, Amélie, Audrey et Isabelle. La région Nord-Pas-de-Calais n'a pas oublié les meurtres barbares commis par les frères Jourdain.
C'est encore très présent dans les mémoires. Hein.
Ces 4 jeunes filles, elles ont été le symbole d'une espèce de martyr. Quoi. Enfin, vous voyez, martyr sordide, elles ne méritaient pas ça. Elles sont tombées sur 2 monstres. Qui n'avait rien à faire dans la société.
C'est terrible parce que le temps a passé et je m'aperçois encore aujourd'hui, quand j'y repense, que toute cette émotion est encore là. Il n'y a pas une fois où je suis sur la côte quand je pars au Touquet ou ailleurs, ou au moment où je passe à cet endroit-là où je pense pas à elle.